les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans sa spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes une question juridique essentielle. Aujourd'hui, M. Bertrand Dumaret, conseiller d'État, président du think tank Fides, Forum sur les institutions, le droit, l'économie et la société, et chercheur associé au CRDP de l'Université Paris-Nanterre, dessine les contours de la révolution copernicienne du droit public de la régulation économique. Premier épisode. Le droit public de la régulation économique, droit et économie de la relation entre l'État et le marché.
Bonjour chers auditeurs d'Amicus Radio, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui et lors de ces 5 épisodes. Et au préalable, je voudrais donner quelques éléments d'introduction sur les propos qui vont suivre. Ils sont issus de travaux académiques, notamment ceux que j'ai rassemblés dans un ouvrage « Droit public de la régulation économique » publié en 2004, mais aussi ils sont issus d'une expérience administrative et juridictionnelle à l'étranger, en France, au Conseil d'État. Et puis, ils sont issus, j'allais dire, d'un juriste qui s'intéresse à l'économie sans être un économiste, mais qui développe des travaux sur les relations entre le droit et l'économie et sur la régulation des services collectifs, à travers notamment ce think tank universitaire Fides et des enseignements, notamment à l'Université de Paris-Nanterre. Alors, en premier lieu, je voudrais donner quelques éléments de définition de ce qu'est la régulation par contraste avec le droit public économique classique. Et ensuite, faire quelques rappels de rudiments d'économie publique, car je crois que c'est extrêmement important et même indispensable que le juriste comprenne les raisonnements qui sont à l'œuvre dans ce nouveau paradigme qu'est la régulation, voire cette véritable révolution copernicienne qui se déploie depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors commençons par quelques éléments de définition de la régulation, par contraste avec notre bon vieux classique droit public économique. Celui-ci peut se définir comme le droit de l'intervention économique de la puissance publique, dans l'exercice de ses prérogatives spécifiques, c'est-à-dire de ses moyens d'action différents de ceux des personnes privées, et par opposition également au droit des relations de type privé entre l'État et les intérêts privés. Le droit public économique, c'est dans la tradition du droit administratif et du droit public français, un droit de l'intervention régalienne dans le marché et sur le marché. Un des points d'application les plus évidents de cette approche peut être trouvé dans le 9e alinéa de la Constitution de 1946, qui prévoit la nationalisation des monopoles de fait et des services publics nationaux. Stipulation qui a reçu une application tout à fait concrète il n'y a pas si longtemps dans la décision du Conseil constitutionnel du 30 novembre 2006, loi sur l'énergie et privatisation de gaz de France. Alors par opposition, la régulation, c'est à la fois un concept ambigu, mais au contenu pourtant précis. Il est ambigu parce qu'on peut en donner plusieurs définitions. La définition, j'allais dire cybernétique, c'est celle de maintenir constante une fonction. Nous avons tous chez nous un régulateur, à savoir un thermostat, dans notre salle de bain ou dans notre salon. Mais moi, j'utiliserais plutôt la définition microéconomique et d'origine plutôt anglo-saxonne, c'est-à-dire l'ensemble des techniques qui permettent d'instaurer et de maintenir un équilibre entre le fonctionnement optimal du marché et l'intérêt général. C'est la définition que Michel Bazeix et moi-même avons donnée dans l'introduction du dictionnaire des régulations. Et puis on peut trouver une autre définition qui est plus sociale ou sociétale, c'est l'ensemble des opérations consistant à concevoir des règles, à en superviser l'application, ainsi qu'à donner des instructions aux intervenants et régler les conflits entre eux lorsque le système de règles est perçu par eux comme incomplet ou imprécis, pour reprendre les travaux de Nicolas Curien et Éric Brousseau ou de Jean-Gustave Pagliolo. Alors ce terme est ambigu et polysémique. Il nous vient très largement du monde anglo-saxon où il désigne quatre choses à la fois. La réglementation, mais aussi l'art de réglementer, ce qu'on appelle en droit français la légistique matérielle, et puis le contrôle public des monopoles privés. Pour certains Français, la régulation, c'est finalement synonyme d'intervention publique. et donc de droit public économique. Pour d'autres, comme le professeur de droit public Arnaud C., la régulation n'existerait pas et s'apparenterait à un faux concept. Mais pour beaucoup, la régulation a une définition organique. Elle est synonyme de la production des autorités de régulation indépendantes, comme par exemple le désigne le professeur de droit privé Marianne Frison-Roche. Alors ce débat est tout sauf neutre. On peut y voir une querelle entre des anciens, pour lesquels la régulation c'est finalement la police administrative classique, ou des modernes, où la régulation est au contraire synonyme de libéralisation. Pour nous, la régulation a comme objectif intermédiaire le fonctionnement optimum du marché, ce qui renvoie à un concept de la théorie économique et même de la microéconomie. Et finalement, c'est l'introduction de la concurrence dans le droit administratif avec deux conséquences. Premièrement, elle peut être considérée comme le synonyme de la libéralisation et du droit qui l'accompagne. Et puis, deuxièmement, elle constitue une véritable révolution copernicienne, au sens physique du terme, de la science physique. Car le référentiel habituel de l'action publique, qui était vertical, la légitimité de l'intervention publique était testée à l'aune de la hiérarchie des normes et de la hiérarchie des compétences, eh bien, le nouveau référentiel va devenir horizontal. La légitimité de l'action publique va être testée à l'aune de son action sur le marché, dans lequel la puissance publique devient un acteur parmi d'autres. Et c'est également un changement d'appareil conceptuel. Le droit positif est testé à l'aune de la théorie économique. Alors nous avons vu dans la définition de la régulation à l'instant le rôle crucial de la concurrence. Elle est en effet une condition nécessaire de ce que les économistes appellent l'optimum économique, selon Wilfried Pareto. C'est la situation limite du marché dans laquelle l'allocation des biens est telle que toute amélioration de la satisfaction d'un seul agent se traduirait nécessairement par la diminution de la satisfaction d'au moins un autre agent. Alors attention, ce critère de l'optimalité est un concept d'allocation et non de justice sociale. Or, les économistes démontrent qu'à l'optimum de Pareto, le marché est dans un équilibre stable. Et que ce qui est intéressant, c'est que la concurrence, eh bien, est une condition nécessaire à cet optimum. Alors, quelle est cette concurrence qui a cet effet aussi favorable? Eh bien, c'est la réunion de six conditions que l'on retrouve dans ce qu'on appelle la concurrence pure et parfaite. Premièrement, l'atomicité des producteurs. Cela veut dire qu'en raison de leur grand nombre et de leur petite taille relative au marché global, aucun producteur n'a une influence suffisante sur le marché pour qu'une hausse de sa production se traduise par une baisse des prix. Donc, les prix sont une donnée pour eux. Il y a aussi l'atomicité des consommateurs, qui est le même phénomène, mais vu du côté de la demande, et le prix est une donnée pour les consommateurs. Troisième condition, l'homogénéité ou la substituabilité des biens. Les produits sont identiques, de telle façon que les consommateurs ne font pas attention à la provenance des biens. Quatrième condition, la libre entrée des facteurs de production, qui a pour corollaire la libre entrée sur le marché des producteurs. La libre sortie, cinquièmement, des facteurs de production, qui a pour corollaire également la libre sortie du marché des producteurs. Ce qui veut dire qu'il n'y a alors, en fonction de ces deux dernières conditions, ni barrière à l'entrée, ni barrière à la sortie. Enfin, sixième condition, la transparence du marché. Tous les acteurs doivent à tout moment connaître la disponibilité et les prix de tous les biens et facteurs, à la fois pour le présent, mais aussi pour le futur. L'information est donc libre et gratuite et exhaustive. Alors on voit naturellement qu'il s'agit d'une construction totalement théorique, mais qui est très utile. D'autre part, de très nombreux régimes juridiques et politiques publiques vont s'attacher à rétablir l'une ou l'autre de ces six conditions. En particulier, la première condition spécifique, l'atomicité des producteurs, induit la politique de lutte contre les monopoles. Le monopole, qui est la situation où il n'y a qu'un seul producteur sur le marché, va maximiser son profit et il va nécessairement élever les prix et diminuer la production. Ce qui aura une double conséquence néfaste. Premièrement, d'extorquer une rente de monopole et de s'éloigner, d'autre part, de la situation d'optimum de Pareto en réduisant le surplus, notamment des consommateurs. Or, il existe des situations de monopole naturelles où les conditions de la production sont telles que des rendements croissants, c'est-à-dire que plus on produit, plus le coût marginal diminue, conduisent nécessairement à ce qu'aucun producteur ne se hasarde sur le marché ou au contraire qu'un seul producteur subsiste, formant donc un monopole naturel. Or, c'est le cas de la plupart des services collectifs en réseau, l'énergie, les chemins de fer, l'eau, etc. Traditionnellement, ces situations se traduisaient en France par la création d'un opérateur public en monopole avec des tarifs fixés par l'État. Et aux États-Unis, ces situations justifient au contraire une régulation par la puissance publique des opérateurs privés pour leur éviter d'abuser de leur position de monopole. Un deuxième concept important pour nous est celui des externalités. La théorie économique décrit une situation dans laquelle il ne peut pas y avoir de marché en raison de ces externalités ou effets externes qui sont les variations d'utilité d'un agent dues à l'action ou l'abstention d'un autre agent non validé sur ce marché. Ceci est par définition le cas lorsque l'action de l'autre agent ne peut pas donner lieu à compensation. Exemple classique, la tannerie qui rejette des polluants dans la rivière et le pêcheur qui voit ses produits invendables, ses poissons invendables. Le marché des sacs à main n'a aucun effet sur le marché des poissons d'eau douce. L'économie publique traditionnelle préconisait une intervention publique pour internaliser ces externalités. À travers des sanctions financières, c'est par exemple la taxation du pollueur, à travers une subvention pour réduire les effets externes ou externalités, ou encore d'une réglementation qui interdisait la pollution. Mais l'économiste Ronald Coase, en 1960, a démontré dans ce qu'on appelle le théorème de Coase que sous deux conditions très strictes, l'absence de coûts de transaction et la parfaite définition des droits de propriété, eh bien les agents vont spontanément corriger entre eux, par des échanges privés, ces externalités. Une application concrète de cette théorie est celle du traité de Kyoto et des marchés de gaz à effet de serre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et je vous donne rendez-vous, à vous, auditeurs d'Amicus Radio, pour un prochain épisode.
Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.